France Inter.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des soldats israéliens qui marchent sur la ville de Gaza, l'offensive terrestre a débuté ce matin, annonce l'armée israélienne. Nous serons à Jérusalem dans un instant. Tout cela après une nuit de bombardements extrêmement violents sur Gaza, avec le soutien américain et sous la condamnation de l'Union européenne. Nous verrons quelles sont les réactions internationales également. Et puis notre invité, le chirurgien François Jourdel, nous racontera dans quelles conditions il a opéré des Palestiniens pendant un mois à Gaza. Il revient d'une mission avec Médecins sans frontières. À suivre encore, des étudiants juifs de l'université Paris 1 bannis d'un groupe WhatsApp par une autre élève en raison de leur nom, la justice est saisie. Ces éleveurs laitiers bretons, pas du tout sûrs de manifester à l'appel de la FNSEA dans 10 jours.
Ça me plaît pas d'aller foutre de la merde partout, d'aller tout brûler et tout ça. C'est, pour moi, ça montre une mauvaise image. Et après, je trouve que les paysans, c'est un travail qui est dur, c'est tous les jours, c'est comme ça, on le sait quand on signe.
Reportage à suivre, le déstockeur Noz qui rachète 2 millions de vêtements de la marque Jennifer pour les vendre à bas prix. Nous serons également à Mulhouse où la librairie historique de la ville vous propose d'adopter l'une de ses étagères. À partir de 13h30, et vous, si vous étiez candidat, les élections municipales dans 6 mois, êtes-vous tenté de vous présenter, de changer les choses par le bas? 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Le boom des crèches pour chiens. Récit de Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La comédienne Anne Charrier demande PJ Harvey à Frédéric Pommier.
Mes enfants sont nés sur PJ Harvey. Non mais c'est pour vous dire à quel point elle a été importante. Il y a quelque chose dans la force et dans la vulnérabilité que je trouve bouleversant.
Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Des soldats israéliens avancent au sol vers le centre-ville de Gaza, la ville la plus importante de l'enclave. Voilà l'information donnée ce matin par l'armée israélienne. C'est une nouvelle phase dans la guerre que mène Israël dans le territoire palestinien depuis près de 2 ans maintenant, en représailles aux attentats du 7 octobre. Guerre qui a fait, selon le bilan corroboré par les Nations Unies, au moins 64 000 morts. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Michel, cette offensive intervient après une nuit de bombardement.
Oui, l'armée israélienne le confirme. 2 divisions font route vers le centre de la capitale de l'enclave palestinienne. Une 3e division devrait les rejoindre dans les prochains jours. Un déploiement rendu possible par une mobilisation massive de réservistes. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, c'est une étape décisive dans le conflit. Des sources militaires précisent que cette incursion terrestre dans Gazaville va se faire de manière progressive et graduelle. Elle a été précédée la nuit dernière par des bombardements d'une intensité sans précédent, selon les habitants de la ville, qui disent avoir vu des colonnes de tanks épaulées par des hélicoptères de combat. La défense civile gazaoui sous contrôle du Hamas dénonce déjà un massacre majeur, alors que l'exode massif des civils se poursuit.
On va voir avec vous dans un instant, Michel Paul, quel est l'objectif poursuivi par les Israéliens avec cette offensive au sol. Mais vous parlez de ces bombardements extrêmement violents la nuit dernière. Comment ont-ils été vécus par les habitants de Gaza? Amira Swilliem, qui est notre journaliste en Cisjordanie, a pu les joindre.
C'est une nuit dont elle ne se remet pas. Entourée de ses 4 enfants, Fida, mère de famille, nous envoie ce message ce matin.
Il y a des bombardements partout, partout. Le bruit que ça fait est vraiment fort, effrayant. Je ne supporte plus ça. Partout, à tout moment, il y a des bombardements.
Après cette nuit d'épouvante, c'est décidé. Elle quitte Gazaville.
J'ai peur pour mes enfants. Ils sont ce que j'ai de plus précieux. C'est pour eux que je vais partir. On va partir maintenant. On va marcher, peut-être 6 ou 7 kilomètres. Je ne vais rien prendre avec moi. Je ne suis plus capable de porter quoi que ce soit en plus.
Israël dit durcir son offensive afin d'en finir avec le Hamas définitivement. Pour Ayed Emewi, humanitaire basé sur place, l'objectif de ces bombardements massifs est tout autre.
The message is clear. Le message est clair, vous n'avez plus de foyer, plus de sécurité et Gaza n'est plus vivable. Il s'agit de mettre en place les conditions physiques et psychologiques qui vont faire accepter à la population de partir vers le sud et ensuite vers une destination inconnue.
Alors que l'offensive terrestre a débuté selon certains médias, la crainte de la nuit à venir et dans tous les esprits à Gaza.
Amira Souilem, notre journaliste en Cisjordanie. Michel Paul, on vous retrouve. Alors l'ONU condamne cette offensive, tout comme l'Union européenne, mais elle se fait avec l'assentiment des Américains. D'ailleurs, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, était à Jérusalem hier.
Oui, un soutien indéfectible, a souligné le secrétaire d'État. Lors d'une conférence de presse conjointe à Jérusalem, Benjamin Netanyahou et Marco Rubio ont affiché une unité sans faille entre les deux pays. Le chef de la diplomatie américaine a totalement adopté le narratif israélien pour ce qui est de l'offensive à Gaza, à une exception près.
Oui.
Il a parlé d'une attaque très limitée dans le temps, un sujet que les Israéliens refusent d'aborder.
Justement, sur la durée, sur les objectifs, est-ce qu'on en sait plus sur ce que veut faire Israël avec cette offensive terrestre à Gazaville ?
Alors, l'objectif déclaré pour Israël est de détruire les infrastructures militaires de la ville. Le ministre de la Défense israélien affirme que cette manœuvre terrestre se poursuivra jusqu'à la libération des otages et la défaite du Hamas. Selon les estimations de l'armée israélienne, plus de 40% de la population gazaoui a quitté la ville. Le chiffre de 350 000 habitants est avancé par les responsables militaires. L'armée a lancé un nouvel appel ce matin à l'évacuation des civils vers le sud de la bande de Gaza.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem. Tout cela alors que les accusations de génocide portées contre Israël se précisent ce matin. C'est une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU qui l'affirme. Les dirigeants israéliens ont l'intention, dit-elle, de détruire les Palestiniens. Sa présidente sud-africaine, Navi Pillay, est juge à la Cour pénale internationale. Elle fut aussi présidente du tribunal pénal international pour le Rwanda. C'est elle qui a présenté le rapport ce matin.
L'objectif du gouvernement israélien est clair au moment même où nous voyons les destructions se poursuivre à Gaza. Pour la Commission, il s'agit d'un génocide. Les autorités israéliennes et les forces de sécurité ont commis et continuent de commettre des actes constitutifs d'un génocide contre les Palestiniens. 1. Le meurtre des membres d'un groupe. 2. Leur infliger de graves souffrances physiques ou mentales. 3. Leur infliger des conditions d'existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle. Et 4. Prendre des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. La commission conclut aussi que les déclarations faites par les autorités israéliennes sont une preuve directe qu'il y a une intention de commettre un génocide.
Propos recueillis à Genève par notre correspondant Jérémy Lanche. Israël dénonce cette enquête et ce rapport comme, je cite, « biaisé et mensonger ». Invité de ce 13-14, François Jourdel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien orthopédique, vous êtes installé, vous habitez en Nouvelle-Calédonie, mais vous venez de passer un mois en mission à Gaza pour l'ONG Médecins sans frontières pour y soigner des blessés. Vous vous y étiez déjà rendu, c'était il y a quasiment 2 ans, en novembre 2023. François Jourdel, où avez-vous opéré à Gaza et quelle était votre mission ?
Alors, on était basé à Deir el-Balah. Deir el-Balah, c'est au milieu de la bande de Gaza. La mission que l'on avait avec Médecins sans frontières était de s'occuper des patients blessés dans cet hôpital de campagne, qui est en fait un hôpital un peu de délestage du plus grand hôpital qui reste sur Gaza, qui est l'hôpital Nasser, dans la zone sud de Khan Younes. Et donc, on s'occupait un petit peu en second look des patients qui avaient été fixés en première intention à l'hôpital Nasser. Donc, on s'occupait un petit peu des suites de soins de ces fractures ouvertes, liées bien souvent à des explosions, des plaies par balles ou des effondrements d'immeubles. Et bien souvent, de proposer des techniques de cicatrisation. Alors, ça peut aller d'une greffe de peau à un lambeau ou des pansements aspiratifs.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'état de destruction de la bande de Gaza. On traverse en convoi dans des véhicules blindés, on nous dit il faudra que tu mettes ton gilet pare-balles et ton casque. On sent que c'est organisé, mais on sent aussi que c'est vraiment la guerre. Donc on traverse le champ de bataille, c'est-à-dire que la zone entre Israël et la zone qu'on rejoint est complètement anéantie, détruite. Ça ressemble à Verdun. Il reste de temps en temps un pan de mur de maison, mais tout est nivelé. On sent que les bulldozers sont passés là pour tout aplanir. Donc c'est impressionnant de voir la différence par rapport à il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais l'impression que tout était détruit, mais en fait, c'est bien pire là maintenant. Il y a des zones où c'est complètement aplani, il ne reste plus rien, quoi. Plus un arbre, plus un olivier. Donc ça, c'est impressionnant. C'est le premier contact d'une zone qu'on a connue avant, qui était encore un peu urbanisée avec des maisons, même s'il y en avait quelques-unes qui étaient explosées. Là, il y a des endroits où il ne reste plus rien du tout. Et puis après, bah, c'est la retrouvaille avec des gens qu'on a connus 2 ans plus tôt, dont on peut lire sur leur visage et sur leur corps en fait, qu'ils ont souffert, c'est-à-dire qu'ils sont amaigris, ils ont les traits tirés, mais malgré tout, ils gardent le sourire de nous voir, qu'on se retrouve. Et puis après, bah, on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être une petite goutte dans l'océan, tellement il y a de blessés, tellement il y a de besoins, donc on essaye de faire au mieux pour quelques patients pour lesquels on décide de mettre le paquet et de tout faire pour que ça marche. Mais on se rend bien compte que tous n'ont pas la chance d'être soignés, bien soignés, et qu'on fait une partie du soin. C'est-à-dire que faire un lambeau ou faire cicatriser une plaie, c'est pas fini. Bien souvent, il y a besoin de faire consolider la fracture. Et ça, c'est encore une autre affaire, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir besoin de multiples interventions, qui vont avoir des infections, qui auront besoin d'avoir des antibiotiques, et c'est tout ça qui n'existe plus en fait pour la suite. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a l'impression d'apporter une petite goutte d'eau, mais on n'est même pas sûr qu'in fine ça va leur rendre service s'ils ne peuvent pas avoir des soins dignes de ce nom après, quoi.
Et puis, ce sont des décisions extrêmement lourdes à prendre. La chirurgie orthopédique, ça veut dire, par exemple, décider ou pas d'amputer des gens à un moment.
Et ouais, c'est là tout le dilemme. C'est qu'on essaye de temps en temps de les convaincre qu'il vaut mieux amputer. Alors, c'est pas facile parce que moi, je parle pas arabe, donc ça se passe par l'intermédiaire d'un traducteur. Mais quand on a un jeune homme de 18 ans à qui on dit mais il vaut mieux te couper la jambe, et qu'il se passe ce laps de temps de traduction et qu'on voit ses yeux s'humidifier, les larmes venir, et qui nous attrape la main et qui nous supplie de pas le faire. Et on essaye de le convaincre que c'est mieux, mais quand on peut même pas lui proposer une prothèse de jambe derrière et qu'on peut même pas argumenter en lui disant mais si tu vas pouvoir marcher avec une prothèse de jambe, il y a pas de prothèse de jambe à Gaza en ce moment, donc c'est très difficile, c'est un vrai crève-cœur. Et puis des fois il faut faire preuve presque de courage pour pouvoir le proposer.
Quel message vous voulez faire passer aujourd'hui, François Jourdel ?
Il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça à broyer tous ces corps. Et les victimes sont essentiellement des civils. C'est des enfants, c'est des femmes. Et voilà, ça va faire des milliers de personnes, des générations de personnes handicapées avec des séquelles à vie. Et voilà.
Le témoignage du chirurgien François Jourdel, de retour d'un mois de mission à Gaza avec Médecins Sans Frontières, interview enregistrée dans la matinée. J'ai rappelé il y a quelques minutes l'opposition de l'Allemagne à l'offensive au sol israélienne qui est en cours à Gaza. Hier, les mots du chancelier allemand Friedrich Merz ont frappé les esprits, très émus pour dénoncer l'antisémitisme dans son pays. Mon gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour permettre aux Juives et aux Juifs de vivre, célébrer et étudier sans crainte dans toute l'Allemagne. Fin de citation. L'an dernier, un nombre record de 6236 crimes et délits antisémites ont été recensés outre-Rhin. Et cette tendance est la même en France, avec comme dernier fait en date ce qui s'est passé en cette rentrée à l'université Paris 1. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Des étudiants juifs ont été exclus d'un groupe WhatsApp d'élèves sur la base de leur nom.
Un groupe WhatsApp qui réunit donc tous les élèves inscrits en première année de licence, en économie, groupe pour échanger des informations toujours sur les cours, qui n'est pas à l'initiative de l'université. Dès cet été, un premier sondage lancé par un étudiant le 24 août, intitulé, je cite, « Les Juifs ». Pour ou contre. Hier soir, une des participantes de ce même groupe WhatsApp décide d'exclure 4 élèves en raison de leur patronyme, qu'elle qualifie, je cite, de sioniste. Avec ce message, s'il y a d'autres sionistes dans ce groupe, en plus de ceux que j'ai déjà jetés, vous pouvez d'ores et déjà le quitter. On ne veut pas de vous ici. Réponse indignée d'une partie des étudiants, mais avec également de nombreux cœurs et pouces levés sur le message de la jeune fille. Ces échanges illustrent une nouvelle forme d'antisémitisme à l'université, totalement décomplexée et revendiquée, souligne le président des étudiants juifs de France, Yosef Murciano.
Là, on a pénétré dans quelque chose qui est nouveau d'une certaine manière, parce que quelqu'un est juif, plusieurs personnes d'ailleurs, ou alors prétendument juifs, sont exclus d'un groupe WhatsApp et d'un groupe Instagram. Cette discrimination, elle est faite sans honte. Les personnes qui l'ont fait sont très fières, en fait, d'avoir exclu les juifs et sont dans une posture de héros. Hier soir, sur ce groupe Instagram, il y a une personne qui est non juive, mais qui a été renvoyée du groupe parce qu'elle avait ajouté des juifs sur le groupe. Donc, voilà où nous en sommes.
Réaction indignée du ministre de l'Enseignement supérieur. L'Université Paris 1, la Sorbonne, annonce avoir saisi la justice et que des sanctions disciplinaires seront engagées contre les auteurs des messages.
Laurent Kramer, l'explosion du port de Beyrouth, c'était en août 2020, plus de 200 morts. Le propriétaire du navire qui avait transporté le nitrate d'ammonium qui a explosé ensuite, donc l'homme responsable de ce transport jusqu'au Liban, a été arrêté. C'était début septembre en Bulgarie. Cet homme de 48 ans, chypriote et russe, est en détention et poursuivi pour introduction d'explosifs au Liban et acte terroriste.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Les mouvements de contestation vont-ils s'accumuler devant le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu? Dans deux jours, la mobilisation intersyndicale s'annonce d'ores et déjà très suivie. Il s'agira de protester contre les projets de budget. Et puis la semaine prochaine, vendredi 26 septembre, ce sera la journée d'action des agriculteurs qui entendent dénoncer le projet d'accord de libre-échange Mercosur. Mais comment cet appel, lancé par la FNSEA, est-il reçu sur le terrain? Mariam El Kurdi a posé la question ce matin à des éleveurs laitiers réunis au Salon international de l'élevage. Ça se passe à Rennes et pour l'instant, ils sont loin de mettre les tracteurs dans les rues.
Pour Pierre-Yves Cavon, éleveur de vaches laitières dans le Morbihan, tout n'est pas rose, non, dans son métier, mais il n'a aucune envie d'aller manifester.
Ça me plaît pas d'aller foutre de la merde partout, d'aller tout brûler et tout ça.
S'il y a quand même un truc qui ne colle pas, c'est que le cahier des charges français n'est pas le même qu'en Europe et que dans les pays du Mercosur. Mais du coup, il faut que ce qu'on importe réponde au même cahier des charges.
Même chose pour Martin Rubeau, 28 ans, aucune étiquette syndicale. Il ne descendra pas dans la rue, surtout par manque de temps, dit-il, mais soutient la démarche en raison du contexte politique.
On ne sait pas trop où on va quand même.
Vous auriez des attentes du gouvernement en particulier?
La stabilité, la reconnaissance et... Surtout la reconnaissance de notre métier, faire valoir le fer français, le made in France est quand même très important, je pense.
Thierry Jotreau, 48 ans, originaire des Deux-Sèvres, hésite encore. Avec son syndicat, la FNSEA, il a pris part aux mobilisations ces deux dernières années. Des actions qui ont donné lieu à des améliorations, dit-il.
Je n'ai pas trop de position là-dessus, moi je vois pas trop l'intérêt de manifester aujourd'hui dans mon domaine. Ouais, bah, on a obtenu certaines choses, oui, comme le contrôle unique, c'est des choses que, oui, un contrôle dans l'année, ça suffit. Ça c'est pas mal.
Pas mal aussi le prix du lait qui a été revalorisé, le vent pour la fabrication de beurre AOP, et parvient à se dégager un revenu mensuel de 2500 à 3000 euros.
Mariam El Kurdi à Rennes pour Inter. À Reims, les deux hommes mis en examen après avoir agressé 7 policiers samedi soir dans le centre-ville sont deux frères originaires de Mayotte et déjà condamnés par la justice pour des faits de violence. Information donnée ce matin par le procureur de Reims. Ces policiers étaient en civil. Samedi soir, ils participaient à un pot de départ quand ils ont été violemment agressés par une dizaine de personnes. Faut-il signer la pétition exigeant un référendum sur l'immigration? Une pétition lancée par l'ancien eurodéputé Philippe de Villiers. C'est la question du moment posée aux responsables politiques à droite et à l'extrême droite. C'est oui, a dit hier Laurent Wauquiez, patron des députés LR, qu'il a donc signé. C'est non pour Marine Le Pen qui explique ce matin qu'elle ne signe pas de pétition, mais dépose des propositions de loi. Fin de citation. Alors cette pétition a été lancée en ligne et elle revendique déjà 1 300 000 signatures. Ça paraît beaucoup. Bonjour Noé Miller.
Bonjour.
Agence de vérification de Radio France. Mais ce chiffre est à prendre avec beaucoup de précautions car en fait on peut signer avec n'importe quelle adresse mail.
Oui, on a essayé avec un faux nom et l'adresse mail totalement bidon, journaliste@123.com, et ça fonctionne. Merci d'avoir signé la pétition, nous indique le site créé par Philippe de Villiers. Alors on ne peut pas réutiliser deux fois le même mail, mais rien n'empêche d'en inventer plusieurs. On est donc bien loin des garanties apportées par des sites spécialisés comme Change.org qui envoient des mails de vérification, bien loin aussi du fonctionnement du site de l'Assemblée nationale, très sécurisé. C'est sur ce site, vous vous souvenez, que la pétition contre la loi Duplomb avait recueilli plus de 2 millions de signatures cet été. Sur ce site également qu'une autre pétition pour demander un référendum référendum sur l'immigration, justement, a recueilli seulement 2800 signatures depuis fin juillet.
Et cette pétition, Noémie, semble liée au groupe de médias détenu par l'homme d'affaires Vincent Bolloré.
Oui, quand on signe la pétition de Philippe de Villiers, il est proposé de consentir à communiquer ses données personnelles à la société Lagardère Media News pour qu'elle puisse être exploitée ensuite par le JDD et JD News, médias dont Vincent Bolloré est propriétaire. Et si on fouille un peu plus dans les mentions légales du site, l'adresse postale indiquée est celle du siège de Lagardère Media News à Paris. Le lancement de cette pétition a par ailleurs été accompagné d'un plan de communication avec Philippe de Villiers en une du JDD le 7 septembre et des reprises sur CNews et Europe 1.
Merci Noé Miller. Le parquet de Paris ouvre une enquête au sujet de Rachida Dati. La ministre de la Culture démissionnaire n'aurait pas déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des bijoux. Ce sont des informations publiées par le journal Libération qui sont donc suivies par l'ouverture de cette enquête. Des bijoux pour un montant total de 420 000 euros avait révélé le journal et ces bijoux ne figuraient pas dans sa déclaration de patrimoine à la Haute Autorité. « Je n'ai rien à régulariser », avait alors réagi la ministre. C'est ce qu'on appelle un déstockeur. L'enseigne Nose, leader européen du secteur, vient de réaliser une opération remarquée dans le monde du prêt-à-porter en crise. Il a racheté fin juillet près de 2 millions de pièces de l'enseigne Jennifer. La marque de vêtements bon marché a été placée en liquidation judiciaire en avril dernier. Claire Checaglini, comment se va dérouler cette vente ?
Alors, dès le 29 septembre, vêtements, chaussures et accessoires Jennifer commenceront à être en vente dans les 346 magasins du groupe mayennais Nose. Seront en rayon les articles de la collection automne-hiver 2024-2025. Le déstockeur espère écouler une partie de la marchandise en seulement quelques semaines et donc avant Noël. Dans quelques mois, ce sera le reste des articles, cette fois printemps-été, qui seront en vente. Tous seront proposés à moins 75% du prix de vente initial. Exemple, pour un jean à 25,99€, il vous en coûtera 6,50€. Le groupe mise sur des fans de la marque qui ne peuvent plus aujourd'hui trouver de vêtements neufs Jennifer.
Et Claire, l'enseigne n'en est pas à sa première dans ce secteur.
Oui, il y a 3 ans, Nose avait déjà racheté aux enchères 1,5 million d'articles de l'enseigne Camailleux. Un an plus tard, ce sont 450 000 paires de chaussures ou de sacs sans Marina qui se retrouvent à prix cassé chez Nose. Mais le groupe, qui emploie environ 6 000 personnes en France, ne se limite pas aux entreprises du secteur de l'habillement. Il avait déjà racheté nombre de meubles de la marque Habitat après la liquidation de la chaîne en décembre 2023. Et en juin dernier, ce sont les produits de vaisselle et de décoration de chez Casa qui étaient proposés à moins 60%. Dans les magasins Nose.
Claire Checaglini, là aussi c'est une illustration des mutations qui touchent le commerce. À Mulhouse, la librairie historique de la ville, Bizet, ouverte depuis 1906, est en difficulté, notamment parce que les travaux sur son site historique traînent en longueur. Le magasin, la librairie, a besoin d'argent, alors elle lance un financement participatif et les clients sont invités à donner leur nom à des étagères. Sur place, Lison Bourgeois.
Sur les affiches accrochées dans la librairie, on peut lire
« Adopte une étagère ».
Julie, cliente régulière, réfléchit déjà à faire un don pour avoir son nom inscrit dans la toute nouvelle librairie.
Oui, ça j'aime bien. J'avais déjà vu ça pour des œuvres d'art ou des restaurations où c'était après affiché. Oui, je trouve ça sympa.
Et on ne parle pas d'avoir son nom n'importe où, il s'agit d'une institution, dit Bernard.
Ça fait partie de l'historique de Mulhouse. C'est vraiment une enseigne centre-ville qui est hyper importante, quoi.
Mais dont les coûts ont explosé, les travaux ont duré 2 ans et demi au lieu de 9 mois, le directeur Luc Wiedmeyer.
Au début des travaux, des choses ont été découvertes à ce moment-là qu'on ne pouvait pas voir quand il y avait les livres. Lorsqu'ils ont arraché les étagères qui étaient la vieille moquette, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un boulot énorme de réhabilitation du bâti.
Le budget initial est alors dépassé de 300 000 euros.
Dans 10, 20, 30 ans, 50 ans, les Mulhousiens sauront que monsieur un tel, madame un tel aura soutenu en son temps quand il y en avait vraiment un besoin urgent, la librairie Bizet. On est dans une époque adopte un chien, adopte un mec, ben là on propose d'adopter une étagère.
Pour avoir son nom inscrit dans la toute nouvelle librairie, il faut faire un don de 100 euros minimum, c'est la moyenne des dons actuels.
Tous s'adoptent, reportage ici Alsace. C'est à Madrid que l'Olympique de Marseille retrouve ce soir la Ligue des champions de football pour la première fois depuis 3 ans. On guettera notamment le duel des coéquipiers de l'équipe de France, le défenseur Benjamin Pavard qui vient de signer à l'OM face à l'attaquant madrilène Kylian Mbappé. Madrid qui se verrait bien détrôner le Paris Saint-Germain le 30 mai prochain lors de la finale, ce sera en Hongrie, mais il va s'en passer des choses d'ici là. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
On va faire avec vous le tour des rivaux du Paris Saint-Germain qui se sont renforcés ces dernières semaines.
Oui, renforcés, pas tous, c'est Liverpool surtout qui a été très actif hein, sur le marché des transferts, mais la motivation a redoublé. Hein. Tous les regards sont évidemment braqués sur le PSG. Est-ce que le Paris sera capable de réaliser un doublé que si peu d'équipes ont réussi hein, depuis le début de la précédente formule en 93. Seul le Real Madrid de Zidane, entraîneur, l'a fait et 3 années de suite. Sinon, il faut remonter avant les années 90. C'est dire la difficulté. Il n'empêche, le PSG favori à sa succession. Oui. Le Barça de Lamine Yamal ne sera pas loin. C'est à n'en pas douter. Le Real de Mbappé, vous en avez parlé, fera certainement meilleure figure que l'an passé. Ça n'aurait pas été très brillant. Le Bayern et Liverpool, je vous en parlais, considérablement renforcés sont toujours aussi redoutables. Mais attention à la bête blessée Manchester City et son nouveau gardien, l'ancien Parisien Gianluigi Donnarumma.
Et puis il y a un troisième club français, hein, c'est Monaco qui est aussi en lice dans cette compétition, qui garde son format de l'année dernière. C'est la nouvelle formule, 36 équipes, une seule poule. Finalement, ça a plutôt bien fonctionné, très décriée.
Exactement, l'UEFA a tenté un coup de poker gagnant, hein, les critiques envolées. La première mouture a eu beaucoup de succès auprès des joueurs et du public surtout. Hein, pour rappel, vous l'avez dit, 36 dans un championnat. Chaque équipe joue 8 matchs, tous différents. Les 8 premiers qualifiés directement pour les 8e, les 8 derniers éliminés et les 16 du milieu, eh ben ils s'affrontent en barrage aller-retour. Forcément, la réussite des clubs français l'an dernier a beaucoup joué pour la popularité de la nouvelle formule, le titre du PSG évidemment, mais aussi les parcours de Lille avec ses victoires contre les deux géants de Madrid et évidemment le parcours de Brest, la grande
surprise qui va nous manquer.
Qui va nous manquer, la belle histoire. C'est vrai qu'elle a le mérite d'offrir cette nouvelle formule, des affiches à chaque journée. Rien que la première, là, vous avez Juventus Dortmund, Bayern Chelsea, Barça PSG pour la deuxième. Bref, cette nouvelle formule a remusclé la compétition.
Et elle débute ce soir, donc à Madrid. Gros morceau pour l'Olympique de Marseille. Merci Xavier Monferrand, 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac avec cette douceur remarquable cette semaine. On va vous en parler. Puis à 13h30, qui veut devenir conseiller municipal? Un peu partout en France en ce moment, les candidats se déclarent. Est-ce que ça vous tente? Si vous avez pris votre décision, venez nous le dire. Si vous l'avez fait il y a 5 ans, venez nous raconter. J'attends vos appels 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
De Saint-Barthélemy d'Anjou dans le Maine-et-Loire, en passant par Chaumont en Vexin dans l'Oise, je vous parle, Jérôme, de plusieurs initiatives qui chouchoutent les toutous.
Et avec vous, Frédéric, une comédienne.
Anne Charrier, que l'on peut voir en ce moment au studio des Champs-Élysées dans Rose Royale, spectacle mis en scène par Romane Boringer. Et avec elle, nous écouterons un titre de PJ Harvey. Ce sera intense, Jérôme, ce sera rock.
Bien sûr. À tout de suite, j'oublie pas, dans un quart d'heure, notre feuilleton sur les traces d'Ousmane Dembélé. Peut-être Ballon d'Or lundi prochain, nous serons à Rennes.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce mardi, je vous raconte l'histoire de Tommaso Buscetta, le plus célèbre des repentis de Cosa Nostra lors du grand procès de la mafia à Palerme de février 86 à décembre 87.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h sur France Inter.
Parce que l'on a tous un proche victime du cancer, on sait à quel point il est important d'aider la recherche. C'est pourquoi Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, s'est fixé l'objectif de guérir le cancer au 21e siècle. En désignant l'Institut Gustave Roussy comme bénéficiaire d'un legs, d'une donation ou d'une assurance vie, vous donnez à nos chercheurs et à nos médecins les moyens de sauver des vies. Appelez dès maintenant le 0800 710 400 pour recevoir notre brochure legs, donation et assurance vie.
Crédit Agricole présente quand votre voiture refuse de coopérer.
Allez, démarre. Démarre et promis, je t'offre un petit sapin parfumé. Allez, tu peux le faire, ma titine, je crois en toi.
Avec l'assurance auto du Crédit Agricole, vous bénéficiez d'une assistance 24 heures sur 24, même en bas de chez vous. En ce moment, 2 mois remboursés jusqu'au 12 octobre. Avec la garantie Assistance Plus, contrat assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances et distribuée par les caisses régionales de Crédit Agricole, courtier en assurance, voire conditions en agence.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo. Torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée ensoleillée au sud, nuageuse au nord.
Oui, sur une bonne moitié nord, c'est partagé entre nuages et petites éclaircies, parfois une averse en prime du nord de la Seine à l'Alsace. Toujours du vent, ce vent d'ouest jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. Du sud-ouest aux Alpes, là le soleil prend le dessus, parfois un peu voilé. Les nuages ont tout de même un peu plus de mal à se morceler au pied des Pyrénées. En Méditerranée, du soleil mais du vent jusqu'à 60 à 70 km à l'heure. Les températures baissent, elles sont un peu justes au nord mais plus estivales en Méditerranée avec 18 à 21 degrés sur la moitié nord, 21 à 25 en descendant vers le sud, jusqu'à 25 à 30 sur le sud-est.
30 degrés,
oui. Oui, demain, du soleil, des brouillards le matin, plus de nuages vers la Manche et vers les frontières du nord, des températures en hausse l'après-midi, hein, 20 à 25 degrés au nord, 25 à 31 au sud. La hausse va se poursuivre pour jeudi.
Plus chaud en fin de semaine.
Oui, on pourrait atteindre les 35 degrés sur le sud-ouest. Vendredi, la chaleur va même remonter vers le nord. On pourrait atteindre les 30 degrés sur le bassin parisien, le centre, la Bourgogne. Et puis à partir de ce week-end, ça va se dégrader par l'ouest avec des pluies et des orages.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
15 mars 2026, dans 6 mois, se tiendra le premier tour des élections municipales, tout simplement les élections qui concernent le plus de Français, puisque vous étiez en 2020 plus de 900 000 à être candidat, la moitié ont été élus. Ça veut dire que 2% des Français inscrits sur les listes électorales seront candidats lors de ces élections, c'est considérable. Mais après la crise sanitaire en 2020, ces élections vont se tenir dans un contexte de crise politique avec ces gouvernements qui se succèdent. Alors est-ce que ce climat a tendance à vous décourager d'être candidat, à vous dégoûter de la politique, y compris à l'échelle locale, ou bien au contraire, est-ce que ça vous incite à vous engager pour faire avancer les choses au niveau de votre commune? Venez nous le dire. Et on vous pose la question aujourd'hui parce que les listes sont en train de se constituer et les nouveaux candidats se déclarent chaque jour en ce moment. 01 45 24 7000 pour être avec nous. Vous passez également via l'application Radio France. Avec nous pour vous répondre et pour nous éclairer, Jean-François Vigier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Bures-sur-Yvette dans le département de l'Essonne, également vice-président de l'Association des maires de France et président du groupe de centre-droit UDI à la région Île-de-France. Avec nous également Laurent Soula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à la Caisse des dépôts et vous avez réalisé une étude que vous avez présentée d'ailleurs ce matin à Paris sur les femmes et leur engagement dans les conseils municipaux, puisque c'est l'une des particularités de ce scrutin. Exactement. 2026. Il va faire pour les femmes une plus grande place, en tout cas dans les petites communes. On va en parler ensemble.
Tout à fait.
Jean-François Vigier, vous avez 62 ans.
Oui.
Vous repartez pour un tour ?
Normalement, oui.
Il n'y a pas trop d'hésitation ?
Non, ben, j'ai la santé, je suis passionné, il reste beaucoup de choses à faire dans ma ville, donc oui.
C'est vraiment maintenant que ça se passe, que se constituent les listes ?
Alors ça dépend. Pour les équipes sortantes, non, pas encore, puisqu'on est encore au travail pendant 6 mois. Le mandat n'est pas terminé, mais...
Vous avez déjà une petite idée ?
Oui, on a des idées, on a des repères, bien sûr qu'on y réfléchit, mais enfin pour l'instant on finit le mandat et l'important c'est de travailler et de finir le programme sur lequel nous avons été élus.
Est-ce qu'il faut s'y prendre très longtemps à l'avance pour constituer une liste, pour sonder les uns et les autres ?
Oui, il faut repérer des gens, il faut parler avec eux, il faut prendre le temps de la discussion. Mais je crois que notre président de l'AMF, David Lisnard, l'a dit ce matin lors de la conférence de presse, je pense qu'on n'a pas affaire à une crise des vocations, mais plutôt une crise de l'action lorsque l'on est élu. Et c'est là que les difficultés commencent vraiment, et il a souligné ce matin combien l'engagement et notre mission au service des Français devenaient de plus en plus compliqués au fil des ans.
Oui, l'engagement, il est là, en tout cas, il était là il y a 5 ans, parce que plus de 900 000 candidats, c'est considérable.
Oui.
À l'échelle d'une démocratie, c'est peut-être même unique au monde.
C'est beaucoup, mais vous noterez aussi que dans une étude que nous avions fait réaliser il y a quelques mois, l'étude montrait que 53% des maires qui démissionnent entre 2020 et 2026 au cours de ce mandat sont des maires élus pour la première fois en 2020. Ça veut dire que la découverte de la fonction, être confronté au quotidien à ces difficultés normatives, réglementaires, financières, pèse énormément sur la santé mentale, physique des maires et certains jettent l'éponge de plus en plus. Lors de mon premier mandat, entre 2008 et 2014, il y avait 100 démissions par an. Il y en a 400 aujourd'hui.
On verra toutes les communes ont des candidats. Je crois qu'il y avait une centaine de communes sur les 36 000. Donc, c'est-à-dire très peu, dans lesquelles il n'y avait pas de candidats, il n'y avait pas de liste il y a 5 ans. Plus d'hommes que de femmes candidats, Laurent Soula, il y a 5 ans.
Candidats, je ne sais pas. Ce qu'on regarde, nous, c'est ceux qui sont élus. En fait, et dans l'étude qu'on a sortie ce matin, donc que j'ai co-réalisée avec Marie Gaudier et Philippe Michelef, on regarde les personnes qui sont élues municipales avant l'élection de 2020, les personnes qui sont élues après l'élection de 2020, et on regarde les trajectoires de ces personnes en complétant ces données.
Qu'est-ce que vous avez appris ?
Alors, on a appris que il y avait. Le résultat principal, c'est qu'il y a bien une augmentation de la part des femmes élues municipales, en contrôlant tous les effets de taille de commune, de ancienneté, d'âge, de etc.
Ça, c'est l'effet de la loi. Voilà. Parité obligatoire pour les communes de plus de 1000 habitants.
Oui, mais ce n'est pas que l'effet de la loi, parce que si on se concentre sur les maires, par exemple, il n'y a pas d'obligation de parité pour les maires.
Oui.
Et donc, en fin de compte, on se retrouve avec une proportion de une femme sur cinq parmi les maires. Donc, il y a encore un écart important malgré la parité.
Même s'il y a un phénomène de rattrapage que vous avez noté.
Même s'il y a un phénomène de rattrapage, c'est-à-dire que quand on contrôle de tout ça, effectivement, sur les maires, par exemple, toute chose égale par ailleurs, la variation de la part des femmes augmente de un peu plus de 60% par rapport à l'augmentation des hommes.
Et ça devrait être le cas encore davantage, puisqu'en 2026, la loi a changé. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les listes vont devoir respecter la parité. Et c'est l'objet de votre appel, Micheline. Bonjour.
Oui, bonjour.
D'où est-ce que vous nous appelez ?
Alors, moi, je suis à Sainte-Magnance.
Où est-ce que ça se trouve ?
Alors, Sainte-Magnance, c'est dans l'Yonne, c'est au sud d'Avallon. Si vous voulez.
Très bien.
À la limite de la Côte d'Or.
Nous vous écoutons, Micheline.
Voilà. Alors, si vous voulez, moi j'ai été élue conseillère municipale et j'étais maire. Bon, pour diverses raisons, j'ai arrêté et j'ai décidé, enfin, avec mes anciens colistiers, ils m'ont demandé de refaire une liste là pour 2026. Ok, j'étais partante. Sauf qu'avec le nouveau mode de scrutin, donc il faut la parité, il faut des femmes.
Et nous, il y a moins de 1000 habitants à Sainte-Magnance.
Il y a moins de 1000 habitants, il y a moins de 500 habitants, si vous voulez. On est 400 à peu près habitants. Et le problème, c'est qu'on ne trouve pas de femmes, en fait. Alors, j'entendais votre prédécesseur qui disait les femmes mères. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes mères. Mais après, s'investir en conseil, eh ben, il n'y a pas moyen. Là, on est deux. On a décidé, dans un premier temps, de faire une liste de 9, parce qu'on peut faire 9 ou 11. Parce qu'en 11, ben, on ne trouve pas les femmes. Donc, on fait déjà 9. Il nous manque 2 femmes.
Vous en avez 2, il vous en manque 2, si je comprends bien.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qu'elles vous disent ?
Une vingtaine, et il n'y a pas moyen. Alors, où c'est des jeunes femmes ? Ah ben, on a les enfants en bas âge, je comprends tout ça, et tout. Ou alors après, c'est des autres personnes, ça ne les intéresse pas. On a l'impression que la vie municipale n'intéresse plus personne, en fait.
Merci. Juste une question, Micheline, combien il y aura de listes dans votre commune ?
Alors, en principe, il y en aura 2.
2 listes ?
Deux listes. Donc, c'est pas évident. Alors, avec deux listes, c'est un petit peu aussi dommage. Mais même des communes qui n'ont qu'une liste avec 11 habitants, s'ils n'ont pas la parité, il va falloir qu'ils disent à des hommes, vous laissez la place aux femmes. Quoi.
Merci Micheline pour votre témoignage. Jean-François Vigier, réaction sur la difficulté de trouver des femmes candidates dans ces petites communes de moins de 1000 habitants. C'est la nouveauté de ce scrutin.
Oui, puisque la loi donc vient demander la parité dans ces communes. C'est vrai que c'était un souhait du législateur qui en cela a suivi la loi de 2013 qui l'autorisait dans les communes en dessous de 5000 habitants. C'est vrai que je crois que le sujet c'était aussi le fait que les gens puissent rayer des noms sur des listes.
Ce ne sera plus possible.
Ce ne sera plus possible et du coup c'est vrai que ça pouvait casser une dynamique sur la durée d'un mandat de 6 ans. On entend les deux arguments, mais ce qui est sûr, c'est que même dans des villes plus importantes, eh bien parfois, il est difficile de constituer une liste avec des hommes et avec des femmes.
Je note la difficulté de trouver des candidats de femmes pour Micheline, mais quand même, commune de moins de 500 habitants, il y a deux listes.
Oui.
Ça veut quand même dire qu'il y a une appétence pour ça.
Oui, et c'est ce que je vous disais.
Les gens ont envie.
Il y aura moins la crise des vocations que la crise de l'action une fois qu'on est élu.
Hélène nous appelle de Nice. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Eh bien, je voulais simplement, comme on est en train de la constituer et qu'on monte notre petit site internet, nous sommes une liste dans une très très grande ville de France, qui est la cinquième de France, qui s'appelle Nice.
Uh-huh.
Et en fait, nous sommes assez désenchantés par tout ce qui s'est passé, par le contexte, on va dire, national et localement aussi. C'est très compliqué, il y a eu des alliances et des désalliances. Et en fait, on est des citoyens, on s'est rencontrés au fil de différentes actions et on a décidé de créer une liste qui rassemble à la fois des fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des acteurs du tourisme, des infirmiers, enfin des gens de la santé, du personnel de différents secteurs d'activité pour pouvoir justement œuvrer dans nos quartiers. Et on a décidé que notre seul parti, ce serait Nice. Voilà.
Et vous avez trouvé facilement des gens motivés autour de vous ?
En fait, on a commencé cet été à... On avait repéré des gens parce qu'on a fait des actions citoyennes ces derniers mois et dernières années sur des problématiques, on va dire, particulièrement niçoises et propres, on va dire, au tourisme, à l'aménagement du territoire, à la mobilité, uh-huh, etc. Donc, qui ont mobilisé beaucoup de riverains, hein, de citoyens de différents quartiers. Et on s'est aperçu qu'il y avait des attentes et que les gens n'étaient pas entendus. Donc, il y a des problèmes de nuisance sonore, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes d'aménagement du territoire par rapport à des questions environnementales qui sont évidentes aujourd'hui. Il y a une adaptation impérieuse à faire. Et donc, partant de là, on a fédéré des gens qui, au fur et à mesure qu'il y a une déliquescence du paysage politique, il faut le reconnaître, en tous les cas français, donc ils se sont dit, j'étais abstentionniste jusqu'à présent, ou je ne me reconnais plus dans mes partis. Et donc, j'ai envie d'essayer quelque chose et d'être utile. Mmh. On se limite à deux mandats. Alors, on est très lucide sur notre espérance de vie, mais on a déjà tout un plan avec un premier mandat de
On ne va pas dérouler tout le mandat, Hélène. L'idée, c'était simplement de savoir si vous vouliez vous engager et pour quelles raisons on vous a entendu. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Laurent Soula, est-ce que vous avez aussi, au travers de votre étude sur l'engagement des femmes, sondé quelque part ce désenchantement et peut-être la rupture qui peut exister avec la politique nationale, ce que nous dit Hélène.
Alors, un autre de nos grands résultats, c'est quand même que quand on regarde les fonctions de maire, et après je vais détailler sur d'autres fonctions, parce qu'il y a vraiment de l'hétérogénéité selon le type de mandat, c'est que 60% des personnes qui sont maires avant l'élection de 2020 sont maires après l'élection de 2020. Sont réélus. Donc il y a une expérience qui joue, habitude qui joue, des présents maires qui restent présents. Si on regarde un peu l'ancienneté, puisqu'on a ajouté les données de l'IRCANTEC, régime que gère la Caisse des dépôts, et où sont affiliés les élus indemnisés. Donc, les nouveaux maires entrants, ceux qui sont nouvellement élus à la fonction de maire, ont déjà presque un mandat, en moyenne, d'ancienneté, comme élu indemnisé, pardon. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un fort effet d'expérience.
Il n'y a pas de dégagisme, en tout cas, il n'y avait pas de dégagisme en 2020.
Sur les maires. Pour autant, c'est moins le cas pour les autres mandats. C'est qu'on a 40% des adjoints qui se retrouvent adjoints après l'élection. Et pour les conseillers municipaux, c'est carrément l'inverse. Indemnisés et non indemnisés. Ouais. On a l'inverse, c'est qu'on a 55% qui sont pas réélus le coup d'après.
Jean-François Vigier, on a le témoignage d'Hélène qui porte une liste citoyenne. Est-ce que c'est un phénomène que vous voyez se développer des listes citoyennes hors parti dans les communes françaises ?
Dans la plupart des villes françaises.
Vous qui êtes membre de l'Association des maires de France ?
Dans la plupart des villes françaises, vous montez des listes pour servir une ville, indépendamment des partis politiques. Peut-être dans les très grandes villes, mais dans les villes moyennes, dans les petites villes, ce sont des listes pour servir une ville et le projet qui est présenté aux habitants est un projet qui est censé répondre à leur vie quotidienne et au contact de nos concitoyens. Et c'est ce qui rend aussi ce mandat le plus beau et aussi, les études le montrent, préféré de nos concitoyens, c'est la proximité. C'est engager des actions concrètes, c'est répondre à des problèmes concrets. C'est ça qui fait l'intérêt aussi de ce mandat de maire. Et on a entendu à l'AMF la proposition du Premier ministre de faire un grand acte de décentralisation, c'est-à-dire, on l'espère, donner plus de liberté aux communes et leur permettre d'agir avec beaucoup plus de liberté.
Est-ce qu'on sait au fond, Jean-François Vigier, pourquoi les gens s'engagent ? Qu'est-ce qu'on cherche quand on veut devenir conseiller municipal ?
Je crois d'abord qu'on a envie de discuter avec les autres, de dialoguer. On a envie de s'investir pour une ville. On aime sa ville, c'est normal. Et on a envie de proposer des solutions concrètes pour la vie quotidienne.
Et c'est vraiment intéressant. On a vraiment son mot à dire quand on est conseiller municipal, ou bien c'est le maire qui décide de tout et au fond, une fois qu'on est élu,
on
est dans le décor, mais pas beaucoup plus.
Non, parce qu'on travaille en... Il y a un collectif qui se crée. Il y a une équipe municipale autour du maire. Il y a des débats. Parfois, il y a des votes pour faire des choix. Et puis après, on les met ensemble en œuvre. De toute façon, un maire qui travaille seul ne peut pas traverser 6 ans de mandat sans que sa fonction soit remise en question par ses collègues.
Est-ce qu'il faut des compétences particulières, Laurent Soula, pour devenir conseiller municipal ? Pour tous ceux qui réfléchissent, peut-être, mais moi, qu'est-ce que je vais aller faire dans cette galère ? Qu'est-ce que je peux apporter, au fond ?
Alors, notre étude permet pas complètement de répondre à cette question-là, même si on regarde quelles sont les catégories socio-professionnelles qui sont
les plus représentées.
Donc ça représente un peu globalement la population générale. Donc là-dessus, si ce n'est peut-être une caractéristique, c'est que le renouvellement de l'élection fait appel à des jeunes. C'est-à-dire que ce qu'on constate aussi, c'est que on a une beaucoup plus grande proportion de femmes qui sont élues, qui ont moins de 55 ans au moment du mandat de 2020.
Le renouvellement, ce sera aussi l'un des enjeux. Jean-François Vigier, le temps qui nous était imparti...
Compétence est importante, mais c'est surtout que la vie politique dans les communes se complexifie énormément.
Et très rapidement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, 13h46 sur Inter. C'est l'heure de notre feuilleton à 13h46, une semaine dans leur vie et nous suivons toute cette semaine l'un des footballeurs français les plus populaires. Il est en lice pour le Ballon d'Or qui sera décerné lundi prochain. C'est Ousmane Dembélé, nous étions à Évreux hier, sa ville d'origine. Aujourd'hui Rennes, le Stade Rennais, son club formateur, Emma Sarango y a rencontré le recruteur qui l'a découvert.
En fait, l'histoire c'est qu'au départ, je ne vais pas voir Ousmane Dembélé jouer. Au départ, je vais sur un match... Il y a une blessure, et en fait, je quitte le terrain et je vais voir les tout petits qui jouaient. Et c'est comme ça que je vois Ousmane, en fait.
Il a quel âge, lui ?
9 ans, au retour de ce match, puisque le match reprend, et c'est là que je demande le nom de Ousmane. Moi, c'est Armand Giré, je suis recruteur pour le Stade Rennais depuis plus de 20 ans. Il faut le dire, hein, à l'époque, dans l'équipe d'Ousmane, il y avait un jeune Turc. En fait, toute la France était sur ce jeune Turc. Et aujourd'hui, tout le monde dit oui, en fait, Ousmane, on l'aurait fait, mais c'est pas si évident que ça. Il était plus frêle, il avait toujours un ballon sous l'épaule, et certainement le fait d'avoir les deux pieds lui permettait aussi, lui permet toujours d'ailleurs, d'avoir cette aisance.
Et vous êtes droitier ou gaucher ?
Gaucher.
Sûr, parce que vous marquez aussi le droit ?
Ouais, je suis plus gaucher.
Et les pénaltys, vous ne les tirez pas du droit ?
Si.
Pourquoi ?
Parce que je tire mieux du droit.
Moi, en fait, je note son nom, donc je me renseigne avec qui il s'entraîne, où il s'entraîne, et je commence à le suivre tranquillement. Je pense même qu'Ousmane, jusqu'à 12 ans, je pense qu'il ne sait même pas qui je suis. Et pourtant, je suis souvent là et je le vois s'entraîner. Ça n'empêche pas que, dès le départ, j'avais déjà noué un contact avec la maman. Qui m'a donné vraiment carte blanche. Une fois que Ousmane est venu en stage, on a pris la décision de les faire déménager, de faire déménager la famille, parce que c'était les meilleures conditions pour que Ousmane puisse s'exprimer. Et puis aussi, il y avait aussi la scolarité. Donc tout ça faisait que le déménagement se profilait, pour vous dire, l'implication quand on veut accueillir un enfant à Rennes, on a porté quand même les meubles, hein. C'est pas on les a juste aidés à déménager, on les a vraiment aidés physiquement à déménager. En fait, Ousmane, comme disent certains ici, Ousmane c'est comme mon fils en fait. Et encore,
là, bon, c'est le nouveau terrain baptisé Dembélé. C'est l'ancien, on va dire, un terrain de compétition. Son premier stage était sur ce terrain-là. Ousmane, je suis très fier de ce qu'il fait. Le club est très fier de ce qu'il fait parce qu'il fait partie de la famille rennaise. Tout ça, c'est parce qu'on a eu confiance en lui, parce que ça a eu le travail, c'est de la fierté. Pour sa maman aussi. Peut-être que c'est sans doute même au fond de moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est peut-être ça. Plus le fait de l'image d'Ousmane. C'est de savoir que cette femme-là, elle a lutté pour ses enfants et aujourd'hui, tout va bien, quoi. De temps en temps, oui, on me le rappelle. Je pense que c'est plus les tout-petits, ceux qui arrivent. Avec les réseaux sociaux, beaucoup de gens se renseignent, les gens savent. Donc, ah oui, c'est lui qui a recruté Ousmane Dembélé. Mais bien souvent, je dis, mon meilleur joueur, c'est celui que je vais recruter demain. Donc, vous voyez.
Demain, c'est le sélectionneur Didier Deschamps qui nous parlera d'Ousmane Dembélé dans la suite de ce feuilleton.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mardi à 13h50. Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de chiens.
Et je vous emmène, Jérôme, à Saint-Barthélemy d'Anjou, 9500 habitants dans le Maine-et-Loire. C'est là qu'a ouvert la semaine dernière une crèche pour chiens. Premier toutous accueilli, Yuki et Neji, un berger suisse, l'autre australien. Alors ici, Jérôme, on ne parle pas de maître mais de parents, pas non plus de pension pour chiens mais bien de crèche. Auprès de Ouest France, la gérante justifie... Contrairement à une pension où on laisse son chien plusieurs jours, là, on l'amène le matin et on le récupère le soir, il ne passe pas la nuit. Alors, on peut aussi faire garder son animal moins longtemps, tarif hors abonnement de 8€ l'heure à 45€ la journée, balade incluse. Autre point commun avancé avec une crèche normale, les chiens font la sieste. Ils ont droit à des muffins et friandises adaptées à eux. J'ai des goûts pastèques, framboises, mûres, dit la gérante en saisissant les pots de glace. Attention, tout est sans sucre, ça donne presque qu'envie, même pour nous, on peut comparer ça au yaourt pour bébé. Une illustration, Jérôme, de la tendance du pet parenting quand l'on considère son animal comme son enfant.
Faut quand même dire, Cyril, que ça reste une rareté, cette crèche.
On reste, Jérôme, en effet, sur un marché, pardonnez-moi, de niche. Hein, mais j'ai observé un début de tendance avec beaucoup d'ouvertures récentes. D'ailleurs, ouais. La fondation 30 millions d'amis salue auprès de l'AFP une bonne initiative pour ne pas laisser son chien seul et une alternative aux pet-sitters, hein, ces baby-sitters pour chiens. Mais l'association invite aussi à la prudence et à vérifier la qualité de l'établissement, les compétences du personnel et l'attitude de son animal dans cet environnement. Alors voici quelques exemples de villes, Jérôme, où se sont installées des crèches canines. En plus d'Angers, la société Patch Guard en a une autre à Nancy, bientôt à Strasbourg, et l'été elle propose ses services à La Rochelle ou dans un camping du village de Tégras dans le Lot. À Paris, deux garderies viennent d'ouvrir dans le 14e arrondissement. Wagi indique avoir trois types de clients, des personnes qui travaillent, des touristes qui font garder leurs chiens pendant qu'ils visitent la capitale et d'autres qui veulent simplement offrir une journée sympa à leur toutou car ces lieux regorgent de loisirs. Dans le 17e arrondissement, The Doggery propose murs à jouer, toboggan et même une piscine à balles. Dernier exemple, Jérôme, pour le jeu de mots, la crèche ouverte en juillet à Bordeaux s'appelle le Truffe Social Club.
Et vous avez, Cyril, repéré une autre initiative pour prendre soin des chiens, ça s'appelle le Bouche à Truffe.
Oui, alors on apprend le bouche à truffe, mais aussi le massage cardiaque canin, la prise de pouls du toutou ou la pose d'un garrot à la patte. Née dans le Tarn, cette formation aux premiers soins canins a été validée par l'Ordre des vétérinaires. Désormais dispensée par la protection civile un peu partout en France, elle dure 7 heures, coûte entre 60 et 120€ et est effectuée sur des mannequins chiens. Mais à Chanier, 5000 habitants en Charente, une autre formation privée permet de venir avec son propre animal, vacciné et sociable, pour effectuer les mises en situation, raconte Charente Libre.
Rappelons, Cyril, qu'il y aurait 10 millions de chiens domestiques en France et ce week-end, certains sont allés faire la fête.
Oui, ils étaient 7500 avec leurs maîtres et maîtresses à Chaumont en Vexin dans l'Oise pour leur WooFest, un événement entre le festival et le parc d'attractions au programme Cani Trail, Cani Cross, Cani Paddle, Cani VTT et nouveauté cette année, Jérôme, un ciné-dog. Le film projeté était évidemment un dessin animé avec des toutous et le prochain WooFest aura lieu à Nice dans un mois.
Merci Cyril Petit à Rennes aujourd'hui exceptionnellement grâce à nos amis d'ici. ici à Armorique. Je précise qu'un ciné-dog, c'est un cinéma, c'est un film que vous voyez avec votre chien. Cern, vous intéressez, Frédéric Pommier, vous tenterez l'expérience de C'est la France, c'est une chanson. C'est la comédienne Anne Charrier qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric.
Vous pouvez la voir actuellement au studio des Champs-Élysées dans le spectacle Rose Royale, spectacle tiré du roman de Nicolas Mathieu. Anne Charrier y est excellente. Et c'est la rockeuse britannique PJ Harvey qu'elle a souhaité que l'on écoute avec la chanson titre de son deuxième album, Read of Me.
On est en 93 quand sort cet album-là. Moi, je suis à l'époque en Irlande, où je suis partie jeune fille au pair, et j'ai décidé de quitter ma famille et de prendre mon indépendance, de trouver du boulot et tout ça. Et un de mes amis me fait une cassette avec le premier album de PJ Harvey et ce second album, qui est une révélation. La voix de PJ Harvey, cette férocité et en même temps la fragilité, c'est le marqueur de cette indépendance que je prenais juste. Et ça a été la bande originale de toute cette période-là.
Donc là, vous aviez quoi, une vingtaine d'années ?
Ouais, 18-19 ans. C'est-à-dire que je venais d'un endroit qui était un petit peu isolé et j'avais du mal à trouver le moyen par lequel j'allais arriver à jouer. Et donc, partir en Irlande m'a donné la force de trouver le chemin.
Donc, ce départ pour l'Irlande, c'était un peu comme un voyage initiatique ?
Totalement. Avec PJ Harvey en fond sonore. Pas mal.
Frédéric, ça veut dire débarrasser de moi.
Oui, mais ce que chante ici PJ Harvey, c'est « Tu n'es pas débarrassé de moi ». Elle s'adresse à celui ou à celle qui vient de la quitter, promet de lui faire lécher ses blessures. Ce texte, il a beaucoup plu à Anne Charrier quand elle l'a découvert, et tout le reste aussi.
Il y a quelque chose dans tout ce que fait PJ Harvey qui est très technique, c'est-à-dire qu'on sent la musicienne, la technicienne du chant aussi, et en même temps, elle lâche ses émotions dans les cris. Il y a quelque chose de guttural parfois, de très violent et de très tenu. Et je crois que c'est ces deux aspects-là qui correspondaient aussi à la jeune femme que j'étais en train de devenir. Quelque chose d'un peu maladroit chez moi, qu'elle, elle savait tenir. Je chantais derrière, parce que j'avais l'impression d'être une grande chanteuse aussi, ce que je n'étais pas. Je ne sais pas si c'est très clair. Vous voyez, mais cette surcharge d'émotions, ces émotions très intenses, j'avais l'impression qu'elle les exprimait avec beauté, avec l'art.
Vous étiez fragile, vous, à ce moment-là, de votre vie ?
J'étais forte et fragile, oui. Oh, oui, bien sûr. Qui n'est pas fragile à cet âge-là ? J'avais envie d'hurler, je trouvais le monde dégueulasse. J'étais en colère à plein d'endroits et en même temps, il y avait une envie de vivre, de bouffer la vie, d'être partout en même temps. Et je trouvais que ça s'exprimait à travers cette musique-là. Quelque chose de très... oui, d'une forme de violence. Je pense qu'il y avait une forme de violence en moi à ce moment-là.
Que vous exprimiez parfois ?
Que j'exprimais parfois, oui.
De quelle manière ?
En tapant dans les murs. Donc cette musique, les cris de PJ m'accompagnaient, vous voyez ? Ou j'accompagnais les cris de PJ, c'est très différent.
Et elle criait un peu pour vous ?
Et elle criait un peu pour moi.
Vous avez eu l'impression de vous apaiser vers quel âge ?
J'allais dire à la naissance de mes enfants et en fait j'entends mon fils me dire il n'y a pas si longtemps je crois que t'as un problème de gestion de la colère maman. C'était pas contre lui hein, mais je conduisais. Donc en conduisant, j'ai encore des petits accès de colère. Mais je pense que la naissance de mes enfants, ouais, a été une accalmie. Mes enfants sont nés sur PJ Harvey. Non, mais c'est pour vous dire à quel point elle a été importante. Et c'est vraiment l'artiste que j'écoute le plus. Il y a quelque chose, voilà, dans la force et dans la vulnérabilité que je trouve bouleversant.
Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs of desire.
Read of Me, PJ Harvey. C'était donc, Frédéric, le choix de la comédienne Anne Charrier.
Anne Charrier, en ce moment à l'affiche du studio des Champs-Élysées à Paris, dans le spectacle Rose Royale.
Merci Frédéric, et à demain, le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan à suivre.